place pour la jeunesse. Merci, Bernard.
Merci beaucoup, merci de votre invitation. Je suis très très content d'être ici, dans cette ville que j'aime bien par ailleurs, outre avec vous de cette société qui s'intéresse à la question, qui travaille sur la question de l'adolescence. J'ai un petit peu modifié mon titre en fait, ça ne contredit pas le premier titre, c'est plutôt un développement. J'ai appelé ça « Adolescence et obsolescence » ou « Comment devenir adulte dans un monde jetable ». Comment est-il possible de devenir adulte dans un monde qui efface les âges, et pas seulement par la chirurgie esthétique ou le lifting, qui fait que nous sommes très heureux toujours de voir Catherine Deneuve aussi belle, mais par la destruction des générations, des relations intergénérationnelles. Pour le dire autrement, s'il y a un malaise particulièrement douloureux, je parle en non professionnel, mais en père et en grand-père, pour l'adolescence de notre époque et dans notre époque, comment ne pas traiter ce mal-être, ou on pourrait presque dire, on serait presque tenté de dire ce non-être, ce qui est extrêmement violent d'ailleurs de dire ça, mais comme une maladie qui serait celle de l'époque elle-même. Qu'est-ce qu'une époque? Une époque, c'est ce qui se produit comme la réception de l'époque précédente et comme la projection de l'époque suivante, de près ou de loin. Comme la façon, autrement dit, dont une époque aura, durant cette époque-là, marché vers son avenir à partir de ce que lui aura légué, de ce qui lui aura été légué, pardon, par ses époques ascendantes. Patrick Cottin a proposé, quand on a discuté de cette intervention il y a quelques mois, de reprendre le titre, en effet, de « État de choc » pour parler de la situation contemporaine de la jeunesse telle que je la vois. Et c'est une proposition qui m'agréait tout à fait, qui m'agrée toujours, parce qu'en effet, je pense que nous vivons un choc. Et je pense même que nous vivons un choc terrible de la destruction des relations intergénérationnelles. Un choc sans précédent historique, selon moi. Qui est lui-même, ce choc, inscrit dans un processus que Naomi Klein, dans un best-seller, a appelé la stratégie du choc, qu'elle a référé à une crise économique, morale, psychique, épistémologique aussi, faudrait-il dire, mais même artistique, puisqu'il y a une crise de l'art contemporain, par exemple. Et qu'elle a rapporté, quant à elle, à ce qu'on appelle, depuis Milton Friedman, la « shock doctrine », la stratégie du choc, au sens où une idéologie, qu'on appelle aussi l'ultralibéralisme, a mis en œuvre cette stratégie, d'abord au Chili, vous le savez, puis dans de nombreux pays, et puis plus récemment aux États-Unis, moment du passage de l'ouragan Katrina, c'est à travers ce cas que Naomi Klein analyse la stratégie du choc de ceux qu'on appelle les Chicago Boys, c'est-à-dire des équipes qui ont été formées par Milton Friedman pour détruire les structures publiques. Et pas seulement les structures publiques, et pas simplement la puissance publique, mais aussi ce que Bertrand Gille appelait les systèmes sociaux. Les systèmes sociaux relevant aussi bien, par exemple, du droit, de l'éducation nationale ou religieuse, que la structure familiale. Ce que, par exemple, Luc Boltanski a un peu décrit au début de « Le nouvel esprit du capitalisme » il y a déjà plus de 10 ans maintenant, 15 ans presque. Quand je dis cela, c'est très grave ce que je suis en train de dire, j'en ai conscience, mais je crois qu'en effet, depuis une trentaine d'années, un changement, on pourrait presque dire géopolitique, s'est opéré dans le capitalisme planétaire, qui a fait que tout à coup, ce capitalisme ultra-consumériste a considéré que ces structures-là empêchaient la pénétration d'innovation sur les marchés, et que donc il fallait les court-circuiter. Ce n'est donc pas seulement des structures, par exemple, comme l'éducation publique aux États-Unis, c'est l'exemple que donne Naomi Klein à propos de Katrina, qui sont mises à bas à l'occasion des chocs, comme par exemple une catastrophe telle que Katrina, mais ce sont bien plus profondément tous les appareils qui, selon moi, j'appelle ça les appareils de production de l'économie libidinale, permettent de transformer ce qui nous habite comme nos capacités dynamiques et qu'on appelle les pulsions, en capacité d'investissement social. les pulsions étant, je considère que c'est clair chez Freud à partir de 1920, ce qui doit faire l'objet d'une éducation, d'une manière ou d'une autre. Ce qui ne peut pas être assumé par un individu sans que cet individu soit, par des pères, des ascendants qui vont l'initier à faire avec ses pulsions, se soit transformé en ce que j'appellerai tout à l'heure de l'attention. Alors, je ne partage pas complètement les analyses de Naomi Klein, pour tout vous dire, parce que je pense que le choc technologique, et pas simplement le choc où elle en parle dans la doctrine, la stratégie du choc, est la norme de la vie humaine. C'est ce que je vais développer aujourd'hui, surtout. Je ne partage pas complètement son point de vue sous cet angle-là, mais sur l'essentiel, je pense que son analyse est juste sur le plan, disons, géopolitique. Quoi qu'il en soit, je voudrais vous parler aujourd'hui des générations sous l'angle, enfin, du point de vue qui est le mien depuis que j'ai commencé à essayer de faire de la philosophie, du point de vue qui est celui de Georges Canguilhem, un médecin, comme vous le savez, et pas seulement un philosophe. Georges Canguilhem a décrit ce qu'on appelle l'être humain comme étant en fait une forme de vie technique. L'être humain, chez Canguilhem, c'est une forme de vie qui ne peut pas se passer de la technique. Alors, il n'est pas le premier à dire cela. D'ailleurs, au moment même où il soutient cette thèse, le normal et le pathologique, André Leroy-Gourhan publie « L'homme et la matière, un milieu technique » où il développe à peu près les mêmes idées, mais d'un point de vue de préhistorien. Ce que Leroy-Gourhan développera ensuite beaucoup plus en profondeur dans « Le geste et la parole ». Toujours du point de vue de la préhistoire. Si on prend, je ne vais pas faire un commentaire de Canguilhem ici, il faudrait le faire, on n'a pas le temps. Mais si on prend attentivement en compte le normal et le pathologique, l'ouvrage majeur de Canguilhem, ce qui sort très clairement de cette lecture, c'est que la forme de vie technique, c'est-à-dire notre forme de vie à nous, ce qu'on appelle les êtres humains, est constitué par des organes artificiels qui sont essentiels au fonctionnement des organes psychosomatiques. Je les appelle psychosomatiques, voilà, pour aller vite. On sait aujourd'hui, avec les neurosciences d'ailleurs, maintenant précisément décrire, par exemple, comment les organes artificiels recodent en totalité des fonctionnements neurologiques basiques et comment ces fonctionnements sont faits, en fait, sont disposés à une plasticité fondamentale qui permette ce recodage, et je soutiens pour ma part que ce recodage est absolument indispensable. S'il n'y a pas ce recodage, il n'y a précisément pas d'éducation, il n'y a pas de viabilité de l'individu ni du groupe. La technique constitue, en outre, qu'elle recode les capacités comportementales, en fait, dans ce moment qui est l'éducation, elle constitue par ailleurs une faculté mnésique qui n'existe pas dans la vie non technique. C'est ce que dit André Leroy-Gourhan en 1965. Il dit qu'il faut appréhender la technique comme une mémoire et pas simplement comme un moyen d'expression ou d'augmentation de la motricité. La technique se conserve par exemple dans cet ordinateur avec lequel j'ai préparé cette conférence, dans les bibliothèques où vous avez appris à faire de la médecine, de la psychologie ou je ne sais quoi, etc. etc. Et cela, c'est la condition même d'une vie noétique, c'est-à-dire d'une vie intellectuelle, spirituelle, culturelle. La technique permet une transmission que le biologique ne permet pas, puisque la technique permet de transmettre l'expérience individuelle de génération en génération. Et c'est ça qui constitue la base de l'intergénérationnel. Cette capacité de transmission suppose l'éducation. Et l'éducation suppose elle-même l'organisation de relations intergénérationnelles, et non seulement intergénérationnelles, mais transgénérationnelles. Je veux dire par là que, dans certaines circonstances, par exemple, on va poser que Thalès est le point de départ de ce qui nous relie. Thalès, ça n'est pas notre grand-père ni notre arrière-grand-père, c'est un point de départ extrêmement lointain, ou dans d'autres sphères, on va dire, l'inengendré constitue notre point de départ, et cet inengendré s'appelle Yahvé, par exemple. Tout ça, ça constitue des circuits transgénérationnels. Certains sont religieux, d'autres sont mathématiques, ou d'autres sont philosophiques, ou toutes sortes de, ou artistiques. Mais ils se transmettent à travers des relations intergénérationnelles. ça n'est que sur le fond mnésique artificiel, c'est-à-dire le fond technique de capacité d'enregistrement de la mémoire, cependant, que ce processus que l'on appelle l'éducation est possible. Ce processus d'éducation est par ailleurs indispensable. Non seulement il est possible, mais il est absolument indispensable. Parce que les organes artificiels dans lesquels arrive un nouveau-né, eh bien, il doit y être, ce nouveau-né doit y être initié, il doit y être initié ou éduqué par des voies qui ont été décrites par des gens comme vous, beaucoup plus qualifiés que moi pour en parler, et qui sont celles de ce qu'on pourrait appeler, par exemple, en psychologie du développement, les âges de l'acquisition du langage, etc., etc. Si l'éducation est indispensable pour acquérir ces organes, qui sont des organes artificiels, mais aussi des organes sociaux, sans lesquels il n'y a pas de sociabilité possible, c'est parce que, précisément, la pratique de ces organes n'est pas guidée par des fonctions biologiques, c'est-à-dire qu'elle n'est pas inscrite dans nos gènes, elle doit être inventée à chaque fois. Tout à l'heure, je ne sais pas le nom de la personne qui a ouvert la journée, parlait de invention. Voilà, les adolescents nous obligent à réinventer. Eh bien oui, il faut sans cesse réinventer. Mais cette réinvention qu'il faut sans cesse produire, elle passe par la technique. Par technique, j'entends aussi bien une clé à molette qu'une automobile, un ordinateur, l'écriture, etc. Tout ça, nous devons apprendre à nous en servir. Une société est fondée sur des processus d'apprentissage et d'éducation qui eux-mêmes se développent à travers différentes structures. Par exemple, la relation mère-enfant, dont je considère qu'elle est absolument fondamentale, qu'elle est nucléaire au sens où c'est le noyau. Mère, une mère, comme vous le savez, qui peut tout à fait ne pas être la mère, mais disons une éducatrice, une nourrice qui va jouer le rôle de premier soin. Le premier soin, faute duquel les soins suivants ne seront pas forcément évidents à donner. La structure familiale, les structures sociales qui varient avec le temps, tout cela varie avec le temps. Même si le noyau peut-être initial résiste très très fortement dans ses caractéristiques fondamentales à travers les civilisations. Structures sociales dans lesquelles je mets l'école, bien entendu, mais aussi les partis politiques, tout ce que l'ancien président Sarkozy appelait les corps intermédiaires, qu'il adorait. Tout cela, ce sont des espaces d'éducation où ce ne sont pas seulement les enfants et les jeunes que l'on éduque, ce sont aussi les adultes. Les adultes s'éduquent jusqu'à la fin de leur vie. L'éducation n'est pas du tout une période des âges, c'est la vie normale d'un être humain qui apprend sans cesse des choses. Voilà, on travaille avec des adolescents. Qu'est-ce que les adolescents vont nous apprendre, à nous qui sommes des adultes, voire de vieux adultes. Tout ça, ça constitue, c'est tous ces processus de transmission constituent ce que j'appelle avec Bertrand Gilles des systèmes sociaux. Je cite Bertrand Gilles parce que Bertrand Gilles a étudié les rapports entre les systèmes sociaux et les systèmes techniques à travers le temps, et en essayant de montrer comment les systèmes techniques viennent perturber les systèmes sociaux et parfois même les faire exploser. Nous vivons une période où les systèmes sociaux sont extraordinairement bousculés par le système technologique planétaire. Depuis quelques années, dizaines d'années environ, je développe une théorie qui s'appelle l'organologie générale. L'organologie générale n'est pas une discipline, contrairement à ce que son nom pourrait donner à croire. Ce n'est pas du tout une discipline. Il n'y a pas un contenu disciplinaire à l'organologie générale. Ce que j'appelle ainsi, c'est une méthode de collaboration entre disciplines. Par exemple, entre médecins, travailleurs sociaux, neurologues, informaticiens, etc. Et même hommes politiques et citoyens. J'ai d'ailleurs essayé de mettre en œuvre cette démarche et cette méthode ici même à Nantes, sur le quartier de la Création, où est installée la maison des adolescents. C'est d'ailleurs comme ça que nous nous sommes rencontrés avec Patrick Cotin sur la recommandation de Jean-Luc Lénis. Qu'est-ce qu'ambitionne de permettre l'organologie générale? L'organologie générale, c'est ce qui essaye de décrire, d'analyser et d'agir sur les relations qui se trament entre les organes psychosomatiques, les organes artificiels et les organisations sociales. Ce que je soutiens, c'est que si on ne tient pas ces trois dimensions, si on n'intervient pas sur ces trois dimensions, on ne fait rien d'autre que de l'adaptation qui peut être négative. Parce que je fais partie des gens qui considèrent que l'adaptation est très souvent négative, parce qu'elle empêche l'individuation. Le but de l'organologie générale, c'est d'étudier ce que j'appelle, après Georges Canguilhem, ce n'est pas un mot de Georges Canguilhem, c'est un mot que j'ai fabriqué à partir de Georges Canguilhem, ce que j'appelle la pathogenèse. c'est-à-dire la genèse du pathos. Le pathos, vous le savez bien, doit s'entendre en deux sens au moins. Il y a le sens des pathémata, par exemple, dont parle Aristote dans la rhétorique. Qu'est-ce que sont les pathémata chez Aristote? Ce sont les sentiments, tout simplement, que produit, par exemple, le discours de Lysias, un grand rhéteur d'Athènes, ou ce que produit les tragédies de Sophocle. Ces pathémata représentent des sentiments, du sensible, du sens, autrement dit, ce qu'on appelle le sens. Pathos, qui vient de pathéine, qui veut dire subir, signifie que je suis le patient de ce qui m'arrive. Mais en même temps, depuis Jacob von Scull et beaucoup d'autres travaux, on sait que le patient devient agent. C'est-à-dire que quand je subis quelque chose, ensuite je le fais subir à mon entourage. Pas forcément le faire subir d'une manière négative. Par exemple, je m'appelle Van Gogh, j'ai été frappé par quelque chose et je fais quelque chose qui va frapper d'autres gens. Ça crée une chaîne de transmission. Et je deviens donc agent. Le pathos est l'origine de l'agent. Et pas simplement l'état de patient. Mais évidemment, le pathos, c'est aussi la maladie. La pathologie, comme on dit. Et on parle de patient au sens de celui qui est malade, subit un agent pathogène, comme on dit. Ce qu'a montré Georges Canguilhem, c'est qu'en fait, la maladie est normative. Et il dit, la santé, vous le savez bien, c'est la capacité de tomber malade. Quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui est capable de tomber malade. Et de faire de sa maladie une expérience qui va lui permettre d'inventer une nouvelle forme de vie. C'est un point de vue nietzschéen, c'est aussi un point de vue stoïcien, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais peut-être qu'on en dira un mot dans la discussion. À partir de cette capacité pathogénétique, Georges Canguilhem parle de ce qu'il appelle une normativité. Il dit la forme de vie technique, c'est pas seulement vrai de la forme de vie technique d'ailleurs, c'est vrai de toutes les formes de vie, mais c'est particulièrement vrai de la forme de vie technique, c'est la vie, si vous voulez, c'est ce qui a une capacité d'inventer de la normativité à partir d'expériences pathologiques. Voilà. Derrière tout cela, il y a un point de vue sur l'évolution du vivant, sur la différenciation du vivant, qu'on trouve déjà chez Nietzsche en 1885. Mais dans le cas de l'être humain, le facteur pathogène fondamental, c'est l'homme lui-même en tant que technicien. Et donc l'homme, en tant qu'il sécrète sans cesse de nouveaux organes, se rend malade. Et d'ailleurs, Georges Canguilhem déclare cette phrase incroyable, « L'homme est cet être qui a la capacité et la volonté de se rendre malade. » Ce qui définit l'être humain, c'est cela. Se rendre malade au sens de se faire vivre des expériences pathogéniques. Alors ça doit vous parler, à vous qui travaillez avec les adolescents. Parce que les conduites ordaliques et toutes ces choses-là, ça relève un petit peu de tout cela, je crois. Cette pathogenèse fondamentale. Alors, ayant dit tout cela comme des préalables qui sont une espèce de considérants généraux à partir desquels je raisonne sur toutes ces questions, je vais maintenant entrer vraiment dans le sujet. Le sujet, c'est que je crois que le monde contemporain, à travers la technologie contemporaine, fait subir aux relations intergénérationnelles des distorsions tout à fait nouvelles, tout à fait exceptionnelles. Qu'est-ce qu'être adolescent, puisque c'est de ça dont vous parlez? Je vous parle en ignorant, donc je vais vous dire ce que tout le monde dit. C'est passé de l'enfance à l'âge adulte, disons, voilà. On ne dirait pas plus que ça, être adolescent, c'est ça. Bon. Mais pour pouvoir passer de l'enfance à l'âge adulte, pour autant que vous soyez d'accord avec cette définition très large, tout ne serait peut-être pas, en tout cas, ça suppose qu'il y ait des adultes. Et ça suppose non seulement qu'il y ait des adultes, mais qu'il y ait ce qu'on appellera un être adulte. Je veux dire par là, quelque chose qui soit reconnu, qui soit constitué, et non seulement constitué et reconnu, mais transmis, élaboré, et réinventé à travers des facteurs d'identification. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui apparaisse comme désirable. Dans État de choc, j'ai commenté un petit livre qui a été publié, je crois, par de jeunes normaliens, si je suis bien renseigné, qui s'appelle « Lettre à une génération qui ne veut pas vieillir », et qui est un texte que d'ailleurs j'ai acheté ici à Nantes, au lieu unique. Un texte extrêmement violent, de jeunes gens qui s'adressent à nous, à ma génération, avec une férocité terrible. comme on dirait dans un langage, excusez-moi, un peu vulgaire, en nous mettant notre nez dans le caca, en disant « vous ne nous avez pas éduqués, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela ». Je trouve que ce texte est assez outrancier, souvent excessif, mais en même temps dit quelque chose d'absolument juste, d'absolument juste. Il y a un énorme problème de transmission dans notre époque. Il faut essayer de le comprendre. Sachant que je pense que ce problème de transmission est essentiellement lié à un problème d'identification. J'ai pris le parti de ne pas vous parler de ce point, j'en parle très souvent d'ailleurs, mais j'en dis quand même un tout petit mot. Pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement important qui s'est produit, surtout à partir des années 40. Adorno et Horkheimer l'ont senti venir à travers leurs critiques des industries culturelles, qui est que, à partir de ce moment-là, au moment où les médias de masse sont apparus, le marketing, qui vous le savez sans doute, a été inventé, conçu par un neveu de Sigmund Freud, qui s'appelait Edward Bernays. C'était donc le fils du frère de la femme de Freud. Dans les années, Edward Bernays, dans les années 10-20, a inventé le marketing. Il l'a inventé comme une captation, comme une capacité à capter le désir. Et ce qu'il a mis en place, qui ensuite s'est généralisé à travers toutes sortes d'autres acteurs, pas simplement des psychologues, il n'était d'ailleurs pas psychologue, et d'ailleurs, à mon avis, il avait une très mauvaise lecture de son oncle, mais il utilisait des concepts efficients. Ensuite, ça s'est développé à travers des cybernéticiens, des behavioristes, etc., pour développer ce qu'on appelait la recherche des motivations, d'abord dans l'armée américaine, puis dans le marketing américain. Et ça a consisté à capter les processus d'identification. Et il y a une trentaine d'années, des équipes aux États-Unis ont commencé à développer l'idée que le marketing devait être capable de se substituer au processus d'identification primaire aux parents à travers les grands médias de masse et donc de capter les processus d'identification. Si vous regardez ce qui se passe à la télévision, par exemple, ce qu'on essaye de capter, c'est l'identification secondaire, ce que Freud appelle en 1920 l'identification secondaire. Et c'est extrêmement grave. Autrefois, c'était Jésus-Christ, c'était Thalès, c'était... Fernand Buisson, qu'admire beaucoup notre ministre de l'Éducation nationale, ou Luther, que je crois notre Premier ministre admire aussi, qui étaient des vecteurs d'identification, ou Napoléon aussi. Aujourd'hui, ce sont d'autres, de tout autre processus qui sont en place. Et ça, c'est extrêmement douloureux pour les parents. Parce que si les parents ne sont pas inscrits dans des processus d'identification sociaux qui permettent cela, alors l'identification aux parents ne se fait plus. Et je pense, moi, qu'un adolescent qui n'arrive pas à s'identifier... Et chez un adolescent, cette identification est une contre-identification, c'est-à-dire une identification négative, mais c'est toujours une identification. Si ça ne se produit pas, alors les gros problèmes apparaissent. Qu'est-ce que l'âge ? Qu'est-ce que l'adolescence ? Je disais, c'est le passage de l'enfance à l'âge adulte, pour autant qu'il existe un âge adulte. Bon, quoi qu'il en soit, on pourrait le dire aussi, c'est le passage, on pourrait le dire d'un point de vue presque physiologique, c'est le passage... du statut d'engendré, c'est-à-dire d'enfant, au statut de géniteur. Adulte, on parle d'animaux adultes. On dit un taureau est adulte, par exemple, quand il peut saillir. Bon. À ce moment-là, on définit l'âge adulte, dans le vivant en général, comme la capacité de reproduction. Ici, quand on parle d'adulte, ce n'est évidemment pas simplement cette capacité de reproduction qui est en jeu. Sinon, par exemple, on ne pourrait pas imaginer que des gens puissent devenir adultes en décidant de ne pas reproduire. Ce qui a été quand même la norme pendant très longtemps, en tout cas en Occident, de ceux qui devaient encadrer les processus d'identification, à savoir les prêtres, les gens d'église, etc., qui étaient censés ne pas reproduire. Après, ils se reproduisaient peut-être quand même, mais je dirais que ça, c'était secondaire. Au point de vue du symbolique, c'est-à-dire l'articulation symbolique, ils devaient se présenter comme ceux qui ne reproduisent pas. Qui ne reproduisent pas au plan sexuel, mais qui reproduisent, en revanche, au plan spirituel. Je dirais ça en grec, au plan noétique. En fait, devenir adulte, c'est être capable de reproduire le symbolique. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne nous définissons pas par la reproduction sexuelle. Nous nous définissons par la reproduction symbolique. Or, précisément, le symbolique doit être reproduit. Et dans sa reproduction, comme le vivant, il doit être transformé. La capacité de devenir adulte, c'est la capacité d'hériter du symbolique qu'on a reçu par une transmission qui s'appelle l'éducation, et à un moment donné, de ne plus simplement recevoir, mais de transmettre à son tour, et de transmettre en transformant le symbolique. Et donc d'être capable de devenir soi-même un processus d'identification. Tout être noétique transforme le symbolique, dans son domaine, chacun dans son jardin. l'un en tant que cordonnier, l'autre en tant que mathématicien, le troisième en tant que premier ministre, etc. Mais dans tous les cas, il a hérité d'un savoir, et en héritant de ce savoir, il l'incarne, et en l'incarnant, il le rend désirable, admirable même, respectable. Et à partir de là, il produit ce que Gilbert Simondon appelle un processus d'individuation. Gilbert Simondon, qui est un élève de Georges Canguilhem. Qu'est-ce que c'est que l'individuation? C'est le fait que, en tant qu'individu, membre d'une communauté, je vais contribuer à la transformation des règles de cette communauté, c'est-à-dire que je vais participer à la prise de responsabilité de cette communauté. Une communauté adulte, c'est une communauté qui prend des décisions. La différence entre un enfant et un adulte, c'est qu'en principe, l'enfant ne prend pas de décision sur lui-même, tout seul. Il en prend, mais pas tout seul. Enfin, en revanche, un adulte est défini d'une manière ou d'une autre comme étant celui qui peut prendre des décisions sur lui-même et à travers lui-même sur l'avenir de la communauté, en tout cas dans les sociétés politiques et démocratiques. En prenant une décision, l'adulte ou le groupe des adultes transforme l'héritage, c'est-à-dire reprenne un héritage, quelque chose qui leur a été légué, l'expérience passée des ascendants et finalement transmettre aux descendants une nouvelle manière d'hériter. Parce que hériter, c'est sans cesse réinventer la façon d'hériter. C'est ça un héritage. C'est autrement dit faire fructifier un héritage. Et ça n'est pas le dilapider. Peut-être ces jeunes écrivains de ce livre qui s'appelle « L'être à une génération qui ne veut pas vieillir » nous ont-ils reproché, je me suis senti très visé dans cette lettre, de ne pas faire fructifier cet héritage. Et de l'avoir dilapidé. Parce qu'ils disent « Vous n'avez pas voulu vieillir, vous êtes finalement restés des gamins ». Vous n'avez jamais fait que consommer de manière irresponsable tout cela, et finalement, nous maintenant, nous nous retrouvons sur le carreau. Et quand ils disent ça, ce n'est pas tellement sur le carreau qui peut être le trottoir sur lequel on voit de plus en plus d'adolescents à Paris, mais c'est aussi le carreau symbolique. Alors, s'il n'y a pas de processus de transformation, de processus d'héritage et de projection dans l'avenir, il n'y a pas de processus d'identification. S'il n'y a pas de processus d'identification, il n'y a plus de relation entre les ascendants et les descendants. Il n'y a plus d'autorité parentale, par exemple. Il n'y a plus d'autorité politique. Il n'y a donc plus de symbolisation de la loi. Il n'y a donc plus de loi. Parce qu'une loi qui n'est pas symbolisée n'est pas une loi. C'est un règlement. Il faut des flics partout pour la faire appliquer, mais ce n'est plus une loi. C'est une société qui ne fonctionne plus. Nous sommes dans cette situation. Nous sommes dans cette situation parce que l'organisation de captation de l'attention par le marketing a complètement désintériorisé la loi pour y substituer d'autres modes comportementaux qui sont hors la loi, totalement hors la loi. D'ailleurs, je vous signale qu'en ce moment, un projet en Californie, à San Francisco, est en train de se mettre en place, porté par des libertariens très fortunés, qui consiste à constituer sur une plateforme pétrolière à 22 km de la côte de San Francisco, une nouvelle ville hors la loi. Comme elle est hors des eaux territoriales, il n'y a pas de fiscalité, il n'y a aucun droit qui s'applique, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Et le but est de capter tout l'investissement des start-up, etc., en relation directe avec Stanford, Berkeley, qui sont en face, mais sans avoir à payer le coût d'entretien de ces universités, des hôpitaux, des routes, etc. Ça s'appelle une nouvelle société hors la loi. Moi, je pense que ce n'est pas une société. Mais bon, je ferme, c'est une parenthèse. Alors, ce qui rend possible les processus de transmission et d'identification et les relations intergénérationnelles que cela suppose, c'est ce que j'appellerais maintenant des supports hypomnésiques. Je prends ce terme en grec, c'est pas simplement parce que je suis peut-être un peu précieux, mais parce qu'il est employé par Platon dans Phèdre, qui est un texte extrêmement important du 4e siècle avant Jésus-Christ. Dans lequel Platon dit, ou plutôt Socrate dit, que l'écriture est un pharmacon. L'écriture, c'est-à-dire ce qu'en grec on appelle un support hypomnésique, c'est-à-dire un support de mémoire artificielle, c'est un pharmacon, dit Socrate. Pharmacon en grec veut dire poison aussi bien que remède. C'est un poison, dit Socrate, parce que l'écriture, si on laisse les sophistes, par exemple, s'en emparer, sans contrôle, eh bien, ça produit la tyrannie des 30. Socrate et Platon sont convaincus que la catastrophe de la tyrannie qui est arrivée à la fin du 5e siècle a été provoquée en grande partie par les sophistes. Par les sophistes qui étaient démocrate. Et Socrate et Platon, vous le savez sans doute, n'étaient pas du tout démocrates. Ils considéraient que la démocratie, c'était une incurie. Ce n'est pas du tout mon point de vue. Moi, je suis un démocrate. Mais quoi qu'il en soit, peu importe les raisons pour lesquelles il jugeait ainsi, mais il disait l'écriture, qui est la condition de la loi, qui est la condition de la cité grecque, qui est la condition de la géométrie qu'admirent tant Platon et Socrate, donc qui est un remède à la finitude de la mémoire qui permet la transmission intergénérationnelle, la construction, que j'appelais tout à l'heure, du transgénérationnel, ce qu'eux appellent de l'universel, du catholou, ce qui va être à la base du logos. Eh bien, l'écriture peut être aussi une catastrophe. Si je mentionne ceci, c'est parce que, je vous disais tout à l'heure, l'extériorisation technique de la mémoire est la condition des relations intergénérationnelles, je le crois foncièrement, je pense que c'est ce que Freud n'a pas suffisamment pensé d'ailleurs, mais cette condition intergénérationnelle, si elle n'est pas transmise de façon thérapeutique, elle devient toxique. Je veux dire par là que j'emploie le mot thérapeutique en un sens qui n'est pas le mot habituel du monde contemporain. Thérapeutique, aujourd'hui, ça veut dire confier au médecin. Mais chez les Grecs, thérapeutique ne veut pas dire objet du médecin. La thérapeia, l'épiméleia, la techné toubiou, toutes ces choses-là, chez les Grecs, ça signifie la façon dont on prend soin de soi-même. Et ce que dit d'ailleurs, ce que disent tous les Grecs, c'est un bon médecin, c'est celui qui vous apprend à prendre soin de vous-même, vous-même, et à vous passer du médecin. Et d'une façon générale, la thérapeia, c'est le soin. Par exemple, enterrer ses morts, c'est une thérapeia. Élever ses enfants, c'est une thérapeia. Ce que dit Socrate, c'est que la technique doit être l'objet d'une thérapeutique. Et cette thérapeutique, c'est ce que Platon appelle la philosophie. D'une façon générale, j'appellerais ça, moi, la politique et l'économie. Une bonne économie, une bonne politique, ce sont des thérapeutiques. Une économie, par exemple, qui consomme tout et qui détruit tout et qui fait que dans 20 ans, il n'y aura plus de quoi faire fonctionner l'économie, n'est pas une économie. C'est ce qu'on appelle une déséconomie. C'est un terme qui est utilisé en économie. La déséconomie, c'est-à-dire c'est une économie négative, une économie qui se détruit elle-même. Nous sommes en ce moment, évidemment, dans cette situation. Alors, l'expérience intergénérationnelle, c'est ce qui est conditionné par des supports hypomnésiques, mais ces supports hypomnésiques, les ascendants ont la responsabilité de former les descendants à leur pratique de ces supports hypomnésiques. Sinon, ces supports hypomnésiques deviennent toxiques. Ça, c'est une question absolument fondamentale, et c'est ça l'enjeu de l'éducation. Or, nous vivons, quant à nous, une période tout à fait exceptionnelle en matière d'hypomnésis, de support hypomnésique. Nous vivons un choc technologique. Il y a toujours des chocs technologiques. Toutes les sociétés vivent de près ou de loin des chocs technologiques. Alors, certaines connaissent des chocs technologiques au bout d'un million d'années. C'est par exemple ce qui se passe entre les formes d'hominidés, les premiers hominidés qui taillent du silex, qu'on appelle le chopper, il y a 4 millions d'années, selon la datation de Leroy Gourhan en 1965. Aujourd'hui, on dit plutôt il y a 2 millions et demi d'années. Entre ce premier choc que Nietzsche et Walter Benjamin décrivaient aussi comme un choc technologique de la vie choquée par la technique. Eh bien, ce premier choc, il en connaît un deuxième 1 million d'années plus tard, c'est-à-dire quand on passe au biface. Donc c'est très très long, 1 million d'années. Nous sommes dans une société tout à fait différente. Ce n'est pas au bout d'un million d'années qu'un nouveau choc technologique apparaît. Nous vivons dans une société qui, par exemple, en 1995, a fait que la société Sony, la grande société industrielle japonaise, a produit 5000 objets techniques nouveaux dans une seule année. La plupart de ces objets techniques nouveaux ont disparu d'ailleurs. Parce que l'élimination, il y a un système dans l'innovation qui consiste à éliminer l'innovation, mais il en reste quelques centaines sur les milliers qui ont disparu, et ceux-là ont changé notre vie. Aujourd'hui, vous le savez bien, prenez exactement aujourd'hui par rapport à l'année dernière, vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui ont changé. On ne s'en rend même plus compte, parce que nous vivons dans une espèce de flux constant de transformation. Mais moi, je pense que, par exemple, mon grand-père, qui est mort en 1979, je crois, n'aurait pas supporté ces rythmes-là. Enfin, en tout cas, il n'aurait pas compris. Alors, nous sommes dressés, je dirais, plutôt qu'éduqués. Nous sommes dressés à comprendre ça parce que nous sommes tétanisés par des processus de matraquage psychologique qui font que nous sommes contraints à nous adapter à ce processus. Mais est-ce que c'est un processus vraiment soutenable? C'est une question qu'on peut se poser. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce que nous voyons bien, c'est que la technologie contemporaine est socialisée à une vitesse extraordinairement élevé, peut-être déraisonnable, et dans un contexte qui est celui d'une guerre économique absolument sans précédent. Une guerre économique qui se joue sur la concurrence, sur les marchés à travers la concurrence entre de grands opérateurs mondiaux, et où on a le sentiment que ceux qui font les frais de cette guerre, ce sont les systèmes sociaux dont je vous parlais tout à l'heure, dont on voit qu'ils sont en ruine, et puis ce sont les gosses. Nous aussi d'ailleurs. Alors cette accélération du transfert de l'innovation, elle résulte de quoi? Elle résulte d'abord du fait que le rapprochement qui s'est opéré à la fin du XVIIIe siècle entre la science d'un côté et l'industrie de l'autre part a fait que ce qu'on appelle les temps de transfert de technologie ont été réduits de plus en plus. Bertrand Gilles montrait par exemple en 1978 que pour passer du bitume de Judée, qui est le système des halogènes murs d'argent qui permettait de capter la lumière, et ça on l'avait compris dès le XVIIIe siècle à l'invention de l'appareil photo à proprement parler, il faut 150 ans. Au début du XXe siècle, il montre que pour passer de l'invention des ondes qui permettent de faire des radars à la réalisation des radars, il faut une trentaine d'années. Mais aujourd'hui, nous avons des domaines dans lesquels le passage de la conception d'un nouveau dispositif scientifique à sa socialisation, dans certains domaines, il faut une semaine pour faire ce passage. Par exemple, dans le domaine logiciel. Donc il y a une accélération absolument foudroyante qui fait que les systèmes sociaux n'arrivent plus à se réapproprier ces processus. Parce que l'évolution des systèmes techniques suppose que les systèmes sociaux se réapproprient ces processus. Sinon, ces processus deviennent désocialisants. Ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais cette accélération, elle a été aussi le fait de ce que je décrivais tout à l'heure comme l'ultralibéralisme, qu'on appelle aussi la révolution conservatrice. Dont je ne vais pas vous parler maintenant, c'est le sujet de l'état de choc. Simplement, pour vous dire un mot, ça a été mis en œuvre, comme vous le savez bien, par Margaret Thatcher, tout d'abord, Ronald Reagan, et c'est une doctrine qui consiste à dire qu'il faut se passer de l'État, il faut se passer de toute puissance publique même, pour socialiser la technologie, parce que sinon on met des freins, et si on met des freins, on n'arrivera pas à financiariser l'économie. La théorie néoconservatrice, c'est la financiarisation de l'économie, consiste à dire maintenant la production industrielle, elle va passer chez les Chinois, chez les Vietnamiens, chez les Saoudiens, je ne sais où. Faisons notre deuil de tout cela, c'est inévitable. En plus, ça va élargir les marchés mondiaux, donc tant mieux. L'essentiel, c'est de garder le contrôle financier de tout cela. Et ça donne ce qu'on appelle la financiarisation. Mais la financiarisation, elle-même, fonctionne sur la spéculation qui, elle-même, doit maîtriser la socialisation de l'innovation. Et donc, ça consiste, le résultat de tout ça, à remplacer la puissance publique qui, autrefois, prescrivait la socialisation de la technologie par le marketing. Et un marketing qu'on appelle le marketing stratégique et qui n'est plus national, qui est international et planétaire. Et qui donc doit effacer toutes les différences entre les systèmes sociaux locaux. Ignorer complètement, par exemple, qu'un Chinois n'est pas un Européen et ne réagit pas de la même manière. Il va falloir faire en sorte que, petit à petit, ils finissent par réagir de la même manière. Tout ça qui a aussi parfois pour effet de produire des votes d'extrême droite, parce que ça finit par détruire tellement les cadres sociaux que les gens deviennent réactifs, et des gens qui étaient très à gauche, par exemple, finissent par devenir des gens de l'extrême droite. Bon, tout ça a des effets absolument ravageurs sur la société. Alors, aujourd'hui, la société, dans ce contexte-là, la technologie, dans ce contexte-là, n'est plus socialisée par une relation intergénérationnelle classique, comme par exemple quand j'étais petit, moi. J'étais très passionné par la technologie, je le suis d'ailleurs toujours, je suis un fervent défenseur même du développement technologique, je ne suis pas du tout un adversaire du développement technologique, y compris des technologies les plus redoutables dont je vous parle là, qui sont pour moi des pharmacas, elles sont très empoisonnantes aujourd'hui, mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de politique publique, donc le marché les socialise d'une manière très toxique, mais c'est par abandon de responsabilité publique. Quand j'étais petit, donc, je m'intéressais beaucoup à la technique, et mon père était un électronicien. Et quand j'étais petit, dans les années 50, c'était les pères qui transmettaient le rapport à la technique, que ce soit la mécanique, auto, l'électronique pour mon cas, ou d'autres, c'était les pères qui transmettaient. Mais entre l'époque où j'étais petit et aujourd'hui, les choses se sont changées, comme vous le savez bien. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui prescrivent les pratiques techniques à leurs parents. Et ça, c'est un changement intergénérationnel absolument majeur. Pourquoi est-ce qu'il en va ainsi? C'est une longue histoire qu'il faudrait refaire en détail, je la survole à toute vitesse, donc vous m'excuserez d'être très sommaire. Il en va ainsi d'abord parce que le marketing est devenu essentiellement générationnel. À partir principalement des années 1960, Et en France, pour ce qui concerne la France, à travers ce qu'on a appelé les radios périphériques, Europe numéro 1 et RTL, eh bien, on a solvabilisé des marchés qui étaient les marchés de l'adolescence, en s'appuyant aussi, d'ailleurs, sur ce qu'on a appelé la contre-culture, qui venait des États-Unis ou de Liverpool, les Beatles, les Stones, le rock and roll, etc., etc. Et tout ce qui venait avec, des représentations fascinantes à travers des personnages identificatoires fascinants, comme James Brown, etc., des grandes personnalités magnifiques. Les industries culturelles, comme les appellent Adorno et Horkheimer, ont su capter des pouvoirs symboliques d'identification, mais à travers ça, faire des agencements, comme dit Gilles Deleuze, entre cette capacité de production d'admiration par des objets symboliques très forts et des processus de socialisation du marché, et faire en sorte que, à travers, au cours des années 60, entre 1960 et 1970, on passe de 13% de téléspectateurs en France à 70% de téléspectateurs. Donc, une socialisation de la télévision qui se fait au cours de ces années-là énorme. Au début des années 60, il n'y a pas encore de poste à transistor. Et au cours des années 60, tous les gosses se baladent avec leur poste à transistor. Aujourd'hui, ce sont des iPods. À l'époque, ce sont des transistors. Tout ça va permettre de très rapidement faire que les gamins se retrouvent 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour, captés par quoi ? Salut les copains, des émissions de ce type, etc. Aujourd'hui, c'est Skyrock. À l'époque, ce sont les grandes émissions d'Europe 1, surtout, et je les ai très bien connues. Vous le savez peut-être, un chiffre officiel de la Kaiser Family Foundation, la grande fondation américaine qui fait des études sur les médias dans la jeunesse, les chiffres de 2010, c'est 10h30 par jour, en chiffres consolidés, hein, de captation de l'attention des enfants, enfin des adolescents américains. Vous savez aussi que les adultes américains regardent la télévision en moyenne 5h30 par jour, c'est-à-dire 2 heures de plus que les Français. 1h3 de plus maintenant, parce que ça a augmenté avec la TNT. Alors, tout ça a fini par produire ce que j'appelle une nativité technologique. L'accélération du rythme de l'innovation, le marketing générationnel, etc., a fini par installer ce qu'on appelle, tout le monde a entendu parler de ça maintenant, les fameux natifs du numérique. Alors, tout ça nous donne à réfléchir, est-ce qu'on peut caractériser une génération par son rapport à une technique qui la constituerait comme cette génération ? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Certainement pas. Mon père, par exemple, c'était un natif de la radio. Moi, je suis un natif de la télévision. Mon grand-père était un natif de la presse imprimée, de la presse à journaux, qui apparaît tard, en 1850 à peu près. Mon arrière-grand-père était un natif de la Gazette. Et puis l'arrière-arrière-arrière-grand-père était un natif d'avant même l'imprimerie. Tout ça a des effets extrêmement importants. L'histoire de tout ça est très peu faite, c'est très important. La révolution de l'imprimerie, par exemple, c'est l'origine du capitalisme, à travers le protestantisme, etc. Qui a fait le travail ? Il y a des gens qui l'ont fait, qui ont commencé ce travail. Elisabeth Eisenstein, par exemple, aux États-Unis. Marika Wolters, etc. Mais on enseigne très peu toutes ces choses-là, dans les hôpitaux, dans la formation des profs, etc. Et c'est fort regrettable. Donc, le fait qu'il y ait une génération technologique, par exemple, numérique, ce n'est pas du tout un fait nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est que ces générations se produisent à cette vitesse-là et sans capacité d'assomption par la transformation des systèmes sociaux qui sont pris de vitesse, qui sont court-circuités et qui, du coup, eh bien, sont rendus caduques et qui donnent l'autorité aux marques et au marketing et non plus aux systèmes sociaux. Et du coup, ça pose d'énormes problèmes de désidentification à la sphère publique, à la chose politique, à la chose symbolique et ça crée des processus d'identification tout à fait nouveaux. Dans ce contexte-là, et je m'achemine vers ma conclusion, j'avais beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je ne les dirai pas parce que je ne maîtrise pas suffisamment le temps. Dans ce contexte-là, je crois que le problème se pose à nous tous, que nous soyons spécialistes de l'adolescence, parents, citoyens responsables, profs, ou je ne sais quoi, adultes, de l'invention de ce que j'appellerais un nouveau contrat de génération. Un nouveau contrat intergénérationnel même. Je veux dire par là que il me semble qu'aujourd'hui, une question fondamentale se pose, qui est non pas de rejeter l'inversion intergénérationnelle qui est en train de s'opérer à travers les natifs du numérique et qui fait que, de fait, Moi-même, par exemple, il y a des gens qui disent que je suis un expert du numérique. Ce n'est pas complètement faux. À la mesure où je travaille beaucoup là-dessus, je dirige un petit institut de recherche où il y a des ingénieurs qui développent des technologies numériques. J'ai énormément écrit là-dessus et j'ai conseillé, y compris Jean-Marc Ayrault ici à Nantes, sur des questions de ce type. Donc voilà, je suis réputé spécialiste du numérique. J'ai dirigé l'INA pour transformer l'IA, pour en faire une société qui fasse de l'archive numérisée. Donc je connais bien les technologies numériques. Et puis je forme des étudiants à l'université de Compiègne, qui sont des ingénieurs en informatique. J'en forme aussi en Suisse et en Angleterre. Donc c'est un sujet que je connais assez bien. Mais en même temps, je vous dis très franchement, si je continue à enseigner, par exemple dans les universités, outre que j'aime beaucoup ça, j'ai besoin moi d'enseigner, et c'est parce que ce sont mes élèves qui me forment aujourd'hui. C'est tout à fait évident. Et d'ailleurs maintenant, j'en fais un contrat officiel avec eux. C'est-à-dire que je leur dis, moi je vous apporte du transgénérationnel, c'est mon boulot, c'est ça un universitaire. Dans l'universitaire, il y a universel. Je suis là pour vous transmettre du transgénérationnel. Et ça, vous ne pouvez pas y rentrer tout seul. Vous avez besoin d'un étrier et je suis votre étrier. Donc, je vous mets le pied à l'étrier. Mais vous allez me transmettre l'énergie du cheval sur lequel je monte avec vous grâce à cet étrier. On est à deux sur le cheval. Alors, je veux dire, disons qu'on n'est pas à deux sur le cheval. Nous sommes un couple, l'aveugle et le paralytique. Et nous avons, et je pense que toujours les générations sont des couples de ce type-là, nous avons à nous aider dans des handicaps. Vous avez peut-être bien compris que quand je faisais référence tout à l'heure à Georges Canguilhem ou à André Leroy-Gourhan qui pose en principe que ce qu'on appelle l'homme, c'est une forme de vie inachevée et qui est donc inerme et handicapée à l'origine. Si par exemple Hawking, le grand physicien, peut être Hawking, c'est pas parce qu'Hawking est un cas exceptionnel d'handicapé qu'il serait devenu physicien. Non, c'est parce que tout homme est un handicapé. Et c'est par une compensation de son handicap que l'homme devient génial. Génial au sens originel du mot, c'est-à-dire génère des choses nouvelles, invente des choses nouvelles. Génie au sens où Emmanuel Kant parle du génie. Et tout homme est génial. Génial, voulant dire, par exemple, j'ai affaire à un tel problème avec mon bébé tout à coup, je suis la mère du bébé, j'invente un truc génial. C'est-à-dire que je me démerde, comme on dit vulgairement. Voilà. Et ça, c'est fondamental. C'est ça le soin, être capable de se démerder. Mais pour pouvoir se démerder, il faut avoir été éduqué par quelqu'un qui s'est démerdé avant vous, c'est-à-dire qui s'est occupé de vous, auquel vous êtes identifié parce qu'il a fait de vous un objet de soin absolument inconditionnel, qui n'a pas de prix. Et donc qui a produit le processus identificatoire dont je parlais tout à l'heure. Alors, je crois que nous avons à négocier un nouveau contrat intergénérationnel face à une situation qui, se développant avec le numérique, nous met dans quoi? Ben d'abord dans une situation de crise énorme. Nous sommes en train de vivre une crise énorme. C'est une crise que j'appelle hypersystémique. Parce qu'on a parlé de la crise systémique de la finance, par exemple, produite par les subprimes, c'est-à-dire par le numérique, parce que les subprimes n'auraient pas été possibles sans le numérique. Mais cette crise systémique de l'économie financière a engendré une crise systémique de l'économie industrielle. Mais elle se combine avec une crise systémique du climat. Et aussi avec des crises systémiques sanitaires. On sait bien qu'il y a d'énormes problèmes sanitaires qui sont en train de s'installer et qui sont extrêmement angoissants. Par exemple, avec le diabète 1 en Amérique du Nord, c'est un sujet bien étudié en ce moment, etc. Ce que je soutiens pour ma part, c'est que dans cette crise que j'appelle donc hypersystémique, qui est une combinaison de crises systémiques, qui crée un horizon de complexité extrêmement grand, un des facteurs de crise essentiels, c'est la destruction de l'attention. Qu'est-ce que c'est que l'attention? L'attention, c'est le nom que je donne lorsque je m'appuie sur Husserl, un philosophe allemand, qui d'ailleurs lui-même n'utilisait pas ce mot-là, c'est le nom que je donne à ce que j'appelais tout à l'heure le soin. Prendre soin de quelque chose, c'est faire attention à la chose. L'attention, c'est ce qui doit être formé. Et la formation de l'attention, c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'éducation. Mais la formation de l'attention, c'est la capacité à acquérir des rétentions. L'attention, c'est une combinaison de rétention, c'est-à-dire de choses que je retiens, et de protension, c'est-à-dire de choses que j'anticipe, essentiellement sous forme de désir, c'est-à-dire la capacité à projeter des désirs, y compris des désirs communs. Le désir du bien, du beau et du juste, par exemple. Ce sont des choses qui s'apprennent, ça n'est pas spontané. Un enfant qui n'a jamais eu d'éducation, et ça existe, ne peut pas accéder à cela. Ce ne sont pas des choses qui s'acquièrent, enfin qui sont encodées dans notre cerveau. Ça doit se construire dans une relation que Socrate ou Bakhtine appelaient dialogique, c'est-à-dire une relation d'éducation intergénérationnelle. L'attention, c'est en fait toujours ce qui est conditionné par ce que j'appelle des rétentions tertiaires, c'est-à-dire des rétentions artificielles, ce que je décrivais tout à l'heure comme les techniques, les supports techniques de la mémoire. C'est à travers l'usage du livre, par exemple, que l'instituteur enseigne aux enfants, à travers le manuel scolaire, la lecture, l'écriture, etc., etc. Il y a toujours des rétentions tertiaires de ce type-là, dans toutes les sociétés. Dans la société chamanique, ce n'est pas l'écriture, mais ce sont d'autres pratiques. Il y a toujours des médiateurs, des fétiches, des objets d'identification comme des peintures rupestres, etc., etc. Les instruments du culte dans le monde religieux, toutes sortes de choses. Le doudou chez Donald Winnicott, qui est la condition, l'objet traditionnel, qui est la condition du rapport intergénérationnel chez Winnicott, etc. Aujourd'hui, des rétentions tertiaires sont apparues d'un type très particulier, qui sont industrielles, qui sont des rétentions tertiaires analogiques, puis numériques, et qui ont permis la captation de l'attention par l'industrie, mais en court-circuitant ceux qui étaient en charge de cette transmission, de cette production d'attention. Et ça a fait que ces produits, ces dispositifs de formation de l'attention sont devenus des dispositifs de déformation de l'attention. Et pas seulement chez les jeunes. Comme je le disais tout à l'heure, la personne qui a ouvert, je suis désolé, j'ai pas
votre nom.
Bruno Burban. Comme il le disait tout à l'heure, ce ne sont pas simplement les adolescents qui souffrent d'addiction vis-à-vis du téléphone portable. Nous tous, nous en souffrons. Parce que nous sommes dans un système qui repose sur la captation de l'attention par l'addiction. Et Nicolas Carr, dont je voulais vous parler, mais je ne le ferai pas, qui était un grand militant du numérique, ça a été un des premiers, des plus grands défenseurs, c'est un journaliste du New York Times, une personne extrêmement connue aux États-Unis, qui a été un militant du numérique, qui a fait des rapports pour l'industrie du numérique, etc. Il y a quelques années, a tout à coup dit, mais je suis devenu totalement addict, je ne maîtrise plus rien, je n'ai plus d'attention profonde, j'ai une attention complètement superficielle, je souffre de déficit attentionnel. Ce ne sont pas simplement les enfants dont on accuse, à travers le DSM américain, l'industrie dans l'affaire 15% d'adolescents qui souffriraient de cette pathologie, mais ce sont aussi des adultes, y compris moi-même, dit-il. Que fait-on? Alors, je vais conclure, parce que je voudrais qu'on ait le temps de discuter. Je ne dirai pas tout ce que je voulais dire, mais ce n'est pas grave. Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que je pense qu'en même temps, tout ce qui est en train de se produire là, que je décris de manière un petit peu pathétique et tragique même, angoissante, est en train de développer aussi, parallèlement à tous ces facteurs d'angoisse, toutes sortes d'inventions absolument formidables. Ces technologies qui sont pratiquées dans le monde de la jeunesse, pas simplement chez les adolescents, mais chez ceux qu'on appelle, pas seulement d'ailleurs des natifs du numérique, mais des jeunes gens qui ne sont pas forcément des natifs du numérique, développent des nouveaux modes de socialisation et de technologie absolument extraordinaires, que nous appelons, dans l'association que je représente ici, Ars Industrialis, une économie de la contribution, une socialisation par la contribution. Vous en avez entendu parler forcément, le logiciel libre, Wikipédia, tous ces processus sont des processus contributifs. Google se développe là-dessus d'ailleurs, en exploitant tout par son algorithme de page ranking, toutes les contributions fournies par les internautes. On n'est plus du tout là dans un modèle purement consumériste, dans un modèle alternatif, un modèle économique tout à fait nouveau, qui est en train de s'inventer. Google étant un hybride un peu trompeur, parce qu'il y a un côté contributif, et l'autre côté, avec l'algorithme de mise aux enchères des mots, est extrêmement consumériste, même hyper consumériste. Donc, il faut dépasser le stade de Google. Si l'Europe n'arrive pas à penser ces choses-là, l'Europe disparaîtra. Parce que tout se joue aujourd'hui à travers ces technologies. Aujourd'hui, en Chine, le Parti communiste chinois investit énormément d'argent dans ces questions. La Chine a l'ambition de remplacer la Californie dans les 20 ans qui viennent. Et peut-être qu'ils vont y arriver. Déjà, le premier supercalculateur au monde, maintenant, est à Pékin, il n'est plus en Amérique du Nord. Et la Chine invente beaucoup de choses. L'Inde aussi. L'Amérique, évidemment. L'Europe ne fait rien. L'Europe regarde passer ce train qui est en train de bouleverser la planète. Or, c'est l'avenir des jeunes gens dont on s'occupe qui est en jeu ici. Je considère, moi, qu'il faut, avec cette génération, passer un contrat intergénérationnel. Beaucoup des gens qui développent ces choses-là en Californie viennent d'Europe, notamment des Français. J'ai moi-même un des anciens étudiants qui est aujourd'hui dans le top management de Google. Ils partent en Amérique parce qu'il y a une politique en Amérique de tout cela, que d'ailleurs je ne partage pas. Si j'avais des responsabilités publiques, je ne ferais pas cette politique-là. Mais c'est une politique qui produit de l'avenir pour la jeunesse, En Europe, il n'y a plus d'avenir pour la jeunesse. Et il faut reconstruire cela. Et pour le reconstruire, il faut construire un nouveau contrat intergénérationnel. Le président de la République a dit qu'il faut un contrat de génération pour créer des emplois. Bien sûr, très bien, mais il faudrait mettre ça au cœur de la politique du gouvernement actuel. D'ailleurs, je crois savoir que le gouvernement va bientôt être réuni au mois de février par Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, pour lancer un séminaire interministériel sur l'enjeu du numérique. Vous devriez dire au gouvernement, l'enjeu du numérique, c'est aussi un contrat de génération d'un nouveau genre, qui devrait amener la jeunesse à inventer avec nous, nous qui transmettrions en tant qu'ascendant ce dont nous avons la responsabilité de le transmettre, mais qui nous ferions transmettre par la jeunesse ce qu'elle apprend, qu'elle a à nous apprendre, parce que la jeunesse a beaucoup de choses à nous apprendre. Nous devrions avoir les moyens, nous, acteurs de terrain, donnés par la puissance publique, encadrés, aidés, d'inventer quelque chose qui n'est pas simplement une question de soigner le mal-être des adolescents, mais d'inventer de nouveaux modèles économiques, d'inventer une nouvelle vie publique. Parce que c'est ça l'enjeu du mal-être de l'adolescence aujourd'hui, qui est d'ailleurs pas seulement le mal-être des adolescents, des parents. Les parents vont très mal. Moi-même, je fais des cauchemars très souvent pour mes enfants et mes petits-enfants. Ils me disent, mais ils ne vont pas s'en sortir, c'est pas possible. Donc c'est un mal-être généralisé, c'est pas du tout un mal-être seulement des adolescents. Et si on ne pose pas le problème à ce niveau-là, on ne pose pas le problème. Voilà. Je suis un peu venu ici pour vous lancer une sorte d'appel. J'ai un peu fait la même chose avec SOS Amitié il y a 2 semaines à Orléans, et j'ai l'intention de le faire avec d'autres associations dans votre genre, parce que je crois qu'il faut aujourd'hui se mobiliser pour poser le problème au bon niveau. Le problème, c'est la sociopathologie de notre époque, qui est une chance aussi, mais une chance si nous savons nous en saisir. Merci de votre attention.
Questions ouvertes. Il nous reste en gros un petit quart d'heure avec Bernard Stiegler, et puis comme on n'a pas de temps, il pourra y avoir un prolongement de la discussion même après le départ de Bernard. Donc je vais tout de suite passer la parole à Christian, qui va introduire les débats.
Patrick Cotin à El Maroc, il présente des sociologues, des anthropologues, des philosophes, il colle à une tribune et regarde ce qui se passe. J'aime bien El Maroc.
J'adore aussi. Alors,
quand il m'a demandé d'être le discutant après l'intervention de Bernard Stiegler, j'ai d'abord regardé l'argument de la journée d'aujourd'hui. Donc j'ai vu accès aux soins, alors bon, je suis psychiatre, je suis responsable d'un service pédopsychiatrie, je me suis dit, bon, ça, accès aux soins, ça doit être dans mes corps, j'ai 3-4 idées. J'ai remonté, je suis allé voir le titre de l'intervention de Bernard Stiegler, j'ai eu choc. Alors, un, j'ai une petite machinerie médicale qui s'est mise en route. Alors, choc, j'ai pensé traumatisme, psychotraumatisme, traumatisme social. J'ai retricoté vers l'accès aux soins. Je me suis dit que les adolescents ont souvent un accès aux soins par cette question du choc, hein, la crise, le passage à l'acte, quelque chose d'assez violent. Donc je me suis dit, oh, je vais me débrouiller avec ça, quoi, ça va aller. Après, je me suis dit, il faut quand même que je cherche un peu qui c'est Bernard Stiegler, que je reconnais, je ne connaissais pas. Donc j'ai sorti les pharmaceutiques, j'ai sorti mes livres, j'ai actionné Google, j'ai essayé de rentrer dans le travail de Bernard Stiegler. Et là, je me suis dit, cool, c'est un peu plus que simplement une histoire de pédopsie et d'adolescence traumatisée ou de choc à l'adolescence. Et je me suis rendu compte que je suis rentré dans un univers extrêmement vaste, quoi. Tout est plus vaste chez Bernard Stiegler. On dirait un slogan marketing.
Je vais en parler à mon éditeur.
Et je trouve très rigolo qu'on vous accueille aujourd'hui à la fac de pharmacie, parce que la question dont on avait parlé, hein, le pharmacone, la pharmacologie, ça revient de façon très forte dans votre travail. Et là, on se sent petit, hein, parce que le pharmacone, alors moi, je suis psychiatre, mélopsie. Bon, je connais 3 médicaments à peu près. À peu près, hein. Enfin, bon, celui pour les énervés, celui pour les très tristes, et puis peut-être celui qui a son déficit attentionnel, voilà. 3 ou 4, à peine. Alors, chez Bernard Stiegler, c'est à la fois rebelle et poilu. Enfin, ça m'a causé. Donc, du coup, avec cette vision des choses, on se retrouve avec la médecine et la thérapeutique qui est une toute petite sous-partie d'un ensemble beaucoup plus vaste, hein, d'un système extrêmement vaste, hein, qui est la question du système de soins et qui est aussi la question de la confrontation de ce système à la bêtise systémique là, dont vous parlez dans le dernier livre. Alors, du coup, là, je me suis senti petit, enfin, futile, de toute façon, je suis toujours petit. Et ça m'a fait penser vraiment que c'était intéressant de se confronter à un univers aussi vaste pour nous qui sommes des soignants et qui ont vraiment une ouverture peut-être beaucoup plus précise, moins globale. Et en vous écoutant là à l'instant, il y avait deux choses qui me venaient. Enfin, il y avait une rêverie, c'est pas mal déjà quand une conférence permet de rêver un peu, et puis une question. Alors, la rêverie, c'est des. Alors j'essaie de retomber sur mes pattes, hein, c'est des qui. De l'équilibrisme, ça se dit ça. J'en étais à ma question de traumatisme. Hein, et je me disais, on est dans un monde bizarre là où il y a des chocs. Hein, sur France Info, la commune, le machin, est en état de choc parce que voilà, les salariés de l'entreprise licenciés sont en état de choc. Et on est vraiment dans une société où cette question du choc est très, 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 très prégnante. Et un truc très énervant, c'est que dans toutes les situations de trauma, de choc, notamment autour des adolescents, on prend l'exemple au hasard, un jeune adolescent qui sort une arme de guerre pour régler le problème de la préoccupation des amphis de la fac, par exemple, hein, voyez, un truc genre Columbine. Alors là, personne ne parle jamais des médias, des réanimateurs, il faut des psys, hein, il faut les fameuses cellules médico-psychologiques. Et puis rapidement aussi, il faut quand même des officiers de police judiciaire et des avocats, parce qu'il faut quand même que la vérité éclate tout de suite, qu'on sache, qu'on comprenne, qu'on puisse savoir qui est responsable, qui est accusé, qui, comment on va un peu gérer cette question-là. Et ma réflexion, du coup, c'était de dire qu'il faudrait peut-être arrêter avec tout ça, il faudrait lancer des cellules philosophiques. Hein, c'est-à-dire que dans ces états de choc, on prendrait une petite ambulance. L'ambulance, on mettrait Bernard Stiegler dedans, et puis il ferait une conférence de philo, là, dans le choc. Et ce que j'ai retenu de votre intervention de ce matin, c'est cette conférence, c'est qu'est-ce que c'est qu'être adulte, hein. Et être adulte, c'est être responsable du prendre soin des jeunes. Hein. Prendre soin, c'est l'expression de Patrick Potin et beaucoup. Et vraiment, on avait montrer que cette question de prendre soin elle est extrêmement vaste, hein, elle est sociale, politique, elle est extrêmement globale et complexe. Et donc cette conférence que vous feriez là, dans votre cellule philosophique d'urgence, elle dirait aussi un truc qui là forcément résonne avec les soignants qui sont dans cette salle, c'est que la question de la responsabilité par rapport aux jeunes, de l'engagement et la question de l'importance de la différenciation générationnelle, c'est vraiment quelque chose de très fort. Donc, je ne sais pas si ce projet, on pourrait soumettre à Jean-Marc Ayrault, la question de la création des cellules philosophiques, mais voilà. Donc ça, c'est ma rêverie, c'est peut-être pas très sérieux, mais quand même. Et finalement, ma question, c'était comment vous pourriez décrire votre vision du système de soins, puisque moi, quand je pense système de soins, voilà, je pense des docteurs, des infirmières, une direction, les trois médicaments dont je vous ai parlé, donc c'est pas grand-chose, mais on a l'impression que dans votre travail, il y a une conception d'un système de soins qui serait un ensemble beaucoup plus vaste. Alors, c'est une question compliquée en peu de temps, mais si vous pouviez nous en dire quelque chose, je pense que ce serait vaste.
Oui, très, très volontiers, merci beaucoup, parce que ce sont des. Vous posez les questions qui m'intéressent fondamentalement. D'abord sur la rêverie même, d'ailleurs. J'essaye, bon, je n'avais pas le temps de parler de ça ce matin, mais dans ce que j'ai appelé tout à l'heure, très rapidement, l'organologie générale, qui d'ailleurs s'appuie sur ce que j'appelle une pharmacologie négative et une pharmacologie positive, c'est-à-dire des propositions d'analyse pharmacologique qui donnent des éléments ensuite pour des soignants. Alors les soignants peuvent être des médecins, des citoyens, des parents, soi-même avec soi, hein, parce qu'on prend soin de soi-même d'abord. J'essaye de décrire donc des phénomènes de toxicité et de positivité. Et par ailleurs, je développe une théorie de ce que j'appelle le double choc. Je soutiens que toutes les sociétés et toutes les histoires même individuelles sont constituées toujours par des successions d'états de choc. Alors, des chocs qui peuvent être très peu visibles et, bon, typiquement, les choses dont vous parliez tout à l'heure, par exemple, l'adolescence est un moment où on vit, en général, un choc amoureux, par exemple, ou un choc, le choc de sa sexualité qu'on découvre, etc. Tout ça, ce sont des chocs. Bon. L'être humain, est-ce qu'il y a, d'ailleurs, chez le monde animal, est-ce qu'il y a des chocs de sexualité chez les animaux? Bon, ça, c'est une question qui mériterait qu'on y réfléchisse, mais j'aurais tendance à me dire, bon, peut-être chez le très grand singe, oui. En tout cas, c'est une question qui serait très, très intéressante en termes de zoologie comparée. Bon, je ferme cette parenthèse. En tout cas, moi, je crois que les chocs chez les êtres humains passent toujours, par un moment donné, par des systèmes artificiels d'identification. Le fétichisme dans la sexualité et toutes ces choses-là. Ces chocs, quoi qu'il en soit, je crois qu'ils produisent, ils se produisent toujours en deux temps. Il y a un premier temps qui est le choc perturbateur qui fait que, comme dit un chanteur, mes circuits sont niqués. Ça ne marche plus, il y a quelque chose qui fait masse. C'est Alain Bachoun qui dit ça. Hein. Je le connais parce qu'il a été repris par Alain René dans On connaît la chanson, qui est, à mon avis, un film absolument fondamental sur tout ce dont on vient de parler là. Ce choc qui fait que mes circuits sont niqués, bon, c'est le bazar, c'est une période révolutionnaire au niveau psychique, au niveau collectif. Et puis ensuite, il y a une recomposition des tissus conjonctifs, si vous voulez, quoi. Hein. Le traumatisme, la blessure, va inventer quelque chose de nouveau. Donc, il y a de nouveaux circuits qui vont s'inventer. C'est le deuxième temps. Je crois qu'en effet, ce que vous disiez dans votre rêverie, là, moi, je pense que ça serait très intéressant de faire ça. Je veux dire par là que... Parce que je crois, moi, aux pratiques expérimentales. Par exemple, la philosophie faite en chair à l'université ne m'intéresse pas du tout, je n'y crois absolument pas. Et je pense d'ailleurs que la philosophie que pratiquait Platon, par exemple, c'était avec Denis de Syracuse, qui l'a rendu esclave, bon, etc. C'était des prises de risques. Je pense aussi que les grands savants du XVIIe siècle, du XVIe et XVIIe siècle, ont pris beaucoup de risques. Il y en a certains qui ont brûlé vifs, d'ailleurs, etc. Et je crois que, si vous voulez, s'il n'y a pas d'expérience sociale, il n'y a pas de savoir qui se construise. Alors, donc, ça veut dire qu'il faut passer par des états de choc. Et aujourd'hui, ces états de choc sont, dans le contexte qu'on décrivait tout à l'heure, effectivement, des chocs, par exemple, les licenciements massifs dans un village. Ce sont des... Et ça serait effectivement très intéressant d'aller faire des ateliers sur place. En fait, j'ai même un nom pour ça, parce qu'en fait, je revendique ça. J'appelle ça la recherche contributive, qui est une nouvelle forme de la recherche-action, telle que Tosqueyas, par exemple, l'a pratiquée à Saint-Alban, telle qu'elle était pratiquée par Kurt Lewin, etc., et dont je dis qu'aujourd'hui, avec les médias, en particulier les médias numériques, on devrait pouvoir développer de nouvelles méthodes de recherche contributive, où on fait comme à Saint-Alban, en situation d'urgence, on invente des nouvelles thérapeutiques. Parce que c'est ça qui s'est passé à Saint-Alban. Alors, ça c'était pour votre première question. Donc moi je suis preneur. À une condition, c'est qu'après, il faut que ces expériences-là soient ensuite travailler en arrière-plan, c'est-à-dire dans le deuxième temps, et qu'elle donne lieu à des nouvelles façons de pratiquer l'enseignement, la recherche universitaire. Donc, ça suppose des changements de méthode de travail disciplinaire. Donc, ça doit avoir des conséquences. Ça m'amène à votre deuxième question, sur le système de soins. Oui, j'ai un point de vue sur le système de soins. J'ai d'ailleurs eu le privilège d'être invité par l'IGAS, l'Institut Général des Affaires Sociales, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, donc qui est votre... interlocuteur tutélaire, en fait, en principe, à l'État. Ce sont les gens qui gèrent la sécurité sociale, les allocations familiales, etc., etc. Donc, on m'a demandé de venir parler de... Il y a un blues, hein, chez les inspecteurs des affaires sociales. Il y a un certain blues. Ils se posent beaucoup de questions. D'abord parce qu'ils se disent, mais est-ce que ça va pas finir par nous revenir en pleine figure, l'affaire Servier, tous ces machins-là, parce qu'ils ont un petit truc à dire là-dessus, quand même, hein. C'est monsieur, d'ailleurs, un des conseillers du président de la République actuel, qui a été chargé du rapport sur l'affaire Servier, monsieur Pierre-Poisson Morel, qui est d'ailleurs un rapport très intéressant à lire. Il y a un grand blues chez eux. Et je leur ai parlé de la question que vous venez de me poser. Puisqu'il y a aussi des médecins, il y a des énarques dans cette commission, il y a 300 ou 400 inspecteurs, mais il y a des énarques, il y a des médecins, puis il y a des travailleurs sociaux qui sont devenus inspecteurs haute fonction publique. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait faire ce qu'avait ambitionné de faire Michel Foucault, d'ailleurs dans les années 50, mais que je trouve qu'il n'a finalement pas vraiment fait. Il faudrait commencer à essayer de repenser la pensée, la thérapeutique moderne. Je veux dire par là que lorsque Foucault, à la fin des années 50, a commencé à travailler sur la clinique, l'histoire de la clinique, sous la direction de Georges Canguilhem, c'était son directeur de thèse. Il a manqué quelque chose de fondamental. C'est la question du pharmacone. Il a beaucoup regardé les transformations de la médecine, etc. Bon, c'est passionnant d'ailleurs, hein, c'est fondamental ce qu'a fait Foucault. Mais il n'a pas dit un mot du pharmacone, et en particulier de l'industrialisation de la pharmacie. Moi-même, j'ai une maladie chronique. Ce n'est pas une maladie très très grave. Je suis allergique au gluten. Mais à un certain moment, ça finit par prendre des proportions très très handicapantes. Et un jour, je vous raconte une histoire personnelle, excusez-moi, mais il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 ans, j'étais invité à un mariage. Bon, c'est un truc familial, j'y suis allé, je déteste ces trucs-là, mais j'y suis allé parce que bon. Et je me suis retrouvé, c'était un très grand mariage, en plus, avec 500 invités, énorme truc. Je me suis retrouvé avec quelqu'un de cette famille, par alliance, qui était, je ne vous dirai pas où, le patron d'une faculté de médecine d'un grand pays européen, dans une très grande ville européenne, une capitale européenne, et qui m'a dit, oh là là, vous êtes malade, ça, vous rentrez dans les communautés de malades sur Internet. Il dit, ah bon? Il dit, oui, c'est très important, parce que, vous savez, moi je suis professeur de médecine, de la faculté de médecine, je dis, les médecins conformes maintenant, les conditions de leur formation ne sont pas complètement à la hauteur, à mon avis, de, voilà. Et pourquoi? Ah, parce qu'on ne fait plus tout à fait ce qu'on faisait avant. On enseigne beaucoup de la pharmacopée, mais certaines. Voilà. Alors, pour avoir pas mal fréquenté des médecins aussi, et pour avoir eu en plus un frère qui était visiteur médical, bon, pour avoir entendu, comme tout le monde, qu'on investit, je ne sais plus, 30 000 euros par an et par médecin dans le marketing des médicaments, etc., plus l'affaire Servier, plus mes réflexions sur la pharmacopée, etc. Je pense, si vous voulez, qu'il y a un système de soins aujourd'hui qui s'est reconfiguré très profondément autour de l'industrialisation des médicaments. Et que c'est un très très gros problème. C'est un très très gros problème. Je ne dis pas ça du tout pour faire des procès, ni aux pharmaciens, ni aux médecins, hein, du tout. Je ferai plutôt des procès, d'ailleurs je ne veux pas faire de procès, mais je vais décrire des processus. Je voudrais plutôt décrire des processus de perte de vue des enjeux de l'industrie. Et de la question de qu'est-ce que c'est que des systèmes de soins dans un monde industriel. Et ça repasse à ce moment-là, c'est pas simplement la question du médicament dont me parlait ce médecin qui me disait faites attention à ce qu'on va vous prescrire en termes de médicaments et tout, et peut-être aller voir dans les communautés de malades, ce que j'ai fait depuis. En plus, après, j'ai découvert que l'INSERM, l'année dernière, a lancé 4 projets, même il y a 2 ans, avec des communautés de malades, que SIDAction a été une association qui a joué un rôle extrêmement important dans le changement des rapports entre le malade et la recherche médicale. J'ai aussi découvert, d'ailleurs, en relisant Canguilhem, que Canguilhem disait, en fait, le seul qui sache vraiment quelque chose de la maladie, c'est le malade. Et donc, il faut inventer des rapports entre les médecins et les malades tout à fait nouveaux, tout à fait différents de ce qui règne aujourd'hui. Bon, il y avait des propositions révolutionnaires derrière tout ça de la part de Canguilhem, par rapport auxquelles il a reculé. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus reculer. Et qu'il faut réinventer complètement le système de soins, mais il faut voir que cette question du soin, c'est une question politique. Je veux dire par là, et économique. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde économique ultra-consumériste qui repose sur la destruction des systèmes de soins. Un système de soins, c'est ce que dit Foucault d'ailleurs à la fin de sa vie. Non, alors, c'est le Foucault qui m'intéresse le plus. Là où il revisite un dialogue de Platon qui s'appelle Alcibiade, où Platon décrit finalement voilà, ce que doit être la philosophie au début de l'histoire de Platon. Non. Et Foucault dit, le problème des philosophes à cette époque-là, c'est pas connais-toi toi-même, c'est prends soin de toi-même. C'est la question du soin, c'est pas la question de la connaissance. Et accessoirement, pour soigner, il faut connaître. Donc, mais la question fondamentale, c'est pas de connaître, c'est de prendre soin. Et pour prendre soin, dans une société comme Athènes, il faut connaître. Mais la question, c'est le soin. Ce soin, ce que montre Foucault, c'est que dans l'Antiquité, c'est la question fondamentale de toutes les grandes écoles de philosophie, depuis les premiers Grecs jusqu'à la fin de l'Empire romain, que c'est même encore le cas des chrétiens primitifs, et même encore, dirais-je, alors ça c'est pas Foucault qui le dit, mais c'est encore le problème de Luther, par exemple. Et ce soin qui a été jusqu'à Fernand Buisson, dont je parlais tout à l'heure en m'adressant à Payon, etc., c'était le souci fondamental, y compris de la République, voilà, de la chose publique. Mais depuis la domination du marketing depuis les années 30, en gros, il est passé du côté de, finalement, de la prescription commerciale. Il a détruit quelque chose. Et ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer parce que je n'ai pas ça du tout contre le commerce ou le capitalisme. Ça, c'est une autre question. Mais je pense qu'il faut réinventer une thérapeutique. Et cette thérapeutique, bien entendu, alors là que les médecins ont un rôle très très important. Parce que quand même, par exemple, la nouvelle nosologie, épidémiologie, je parlais tout à l'heure du diabète 1 en Amérique du Nord, c'est lié à des transformations de comportement alimentaire gravissimes qui sont induites par des matraquages publicitaires et un abandon de responsabilité. Et si on ne s'en occupe pas, ça finira très mal, parce que ça finira par des révoltes populaires violentes. Voilà. Voilà un petit peu, alors je parle toujours trop quand on me pose une question, donc un petit peu ce que j'aurais envie de dire, mais je m'arrête là, parce que en plus il va falloir que je m'en aille. Voilà.
Oui, merci. Peut-être une ou deux questions dans la salle, avant que Bernard nous quitte. S'il y a un micro, baladeur, ils sont là.
Pardon.
Ça marche pas.
Reprendre vos arguments, mais quand même dans le fil historique que vous nous proposez, il y a aujourd'hui avec cette précipitation, et de l'autre côté, vous nous renvoyez au stoïcisme. Alors, première question, c'est comment on peut rester stoïque avec cette espèce d'accélération que vous décrivez, cette presque précipitation, sachant que bah, le train à prendre, moi, la rêverie là, du confrère, moi, je la voyais aussi du côté de toutes ces circulations, il n'y aurait peut-être pas qu'un train, il y a aussi d'autres sortes de circulations, etc. Et dans ce qui circulerait sur le plan transgénérationnel, je me demande si j'essayais d'inclure dans le raisonnement que vous me proposez, qui est bien sûr très intéressant, mais quand même qui s'inscrit du côté de la masse, hein, et qui fait masse, je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose qui faisait masse aussi du côté de cet héritage que du coup on ne peut pas travailler, du transgénérationnel, et du choc de cette guerre. Donc nous sommes issus, hein, puisque c'est 2, 3, 4 générations hein, selon nos âges, et que donc vous décrivez cet effet de masse média, notamment à partir des années 50, donc on est vraiment dans cette espèce de télescopage-là qui fait que je me demande si on n'est pas passé aussi à côté du contre-choc, c'est-à-dire de la récupération de ce premier choc. Moi, je pense quand même hein, qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans l'adolescence et dans la difficulté des adolescents, des parents d'adolescents aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, mais enfin, en tout cas ces dernières années, de s'inscrire dans cette réponse éducative, justement parce qu'eux-mêmes, ils sont les héritiers d'une transmission qui n'a pas pu se faire du côté de la récupération de ce choc, sans être. Français, mais enfin, il y a la question de l'humiliation et l'interdit qui a été posé de réfléchir à cette question de la récupération de l'humiliation, etc. Voilà. Et donc je me demande, est-ce que on n'est pas là dans quelque chose qui fait masse, justement, et encore plus, et dans cette comparaison que vous faites, puisque vous mondialisez cette question, évidemment, et que toutes les sociétés, toutes les latitudes n'ont pas vécu les choses de la même façon, est-ce que ça fait masse aussi là, c'est-à-dire que ça écrase tout, et qu'on ne peut pas travailler le transgénérationnel finalement. Vous nous dites qu'il faut mettre le pied à l'étrier, mais on met le pied à l'étrier à l'envers.
Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais bon, moi, je n'ai pas le sentiment de. Comment dire, je crois que je suis un peu dans. Ce que je disais me semble tout à fait. Inscrit dans ce que vous dites. Voilà. Je veux dire par là que, alors, quand je parlais de masse, d'ailleurs, j'ai parlé de masse en deux sens différents. Quand j'ai cité Alain Bachung, c'était ça fait masse au sens où ça fait un court-circuit. Faire masse en électronique, ça veut dire, à un moment donné, vous faites un court-circuit. Vous faites péter les plombs, comme on dit. Hein. La première fois que j'en ai parlé, c'était avec Adorno, c'était les industries de masse qui produisent des courts-circuits, mais c'était masse au sens, ce qu'on appelle les médias de masse. Mais c'est pas la même chose. Quoi qu'il en soit, il y a un lien évidemment entre les deux. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous disiez, mais si je l'ai bien compris, ce que j'en ai compris en tout cas, c'est que vous disiez qu'il faudrait peut-être aussi remonter, pas simplement à la génération adolescente, mais à ce qui s'est passé avant, et qu'il y a tout un travail à faire d'interprétation, par exemple sur nos générations. Ça, j'en suis absolument d'accord. J'ai d'ailleurs publié 3 livres qui s'appellent « Mes créances et discrédits » en 3 volumes sur cette question-là. Parce que je pense que tout un travail n'a pas été fait, y compris dans l'état de choc, là, je parle de cela, y compris avec mes maîtres. Moi, j'ai été formé par Foucault, Derrida, Deleuze, des gens que j'ai fréquentés personnellement, que j'ai bien connus. Derrida, c'était quelqu'un que je voyais 3 fois par semaine, hein, à un moment donné. C'est des gens que j'ai très, très bien connus. Et je pense qu'ils n'ont pas fait ce travail. C'est pas du tout, je ne les mets pas du tout en question en disant ça. On ne peut pas tout faire, de toute façon. Heureusement qu'ils n'ont pas tout fait, d'ailleurs, parce qu'on n'aurait plus rien à faire. Mais nous, les philosophes d'aujourd'hui. Mais voilà. Et en fait, je disais même tout à l'heure dans ma conférence qu'il y a tout un travail qui n'a pas été fait, et même sur ce qui s'est passé à l'époque du protestantisme, qui reste un peu aux États-Unis, mais encore, ça reste très, très embryonnaire. Je dirais même plus que, par exemple, en psychanalyse, moi, je suis très freudien. Quand je dis freudien, je ne veux pas dire freudiste. Je ne suis pas quelqu'un qui défend Freud à tout craint. Non, je pense qu'il y a des trucs qui ne marchent pas chez Freud. Et je pense en particulier que Freud n'a justement pas pensé à la question dont j'ai parlé aujourd'hui. Le pharmacon, ça n'existe pas chez Freud. Alors même que la question du fétiche devrait poser ce problème. Eh bien, la psychanalyse, par exemple, a été instrumentalisée par le marketing complètement. Et pas seulement la psychanalyse, mais tout le mouvement deleuzien, par exemple, a été totalement instrumentalisé dans les années 70. Ça a été justement analysé par Luc Boltanski. À mon avis, pas très bien. Mais en même temps, il a soulevé le problème. Il a montré comment Yvon Gattaz, en 1976, a réuni le CNPF en disant « Faut reprendre toutes ces idées de ces gauchos, parce que c'est une formidable occasion de faire sauter toutes ces limites qu'on nous impose. Bon. » Donc, il faut de la limite. Toujours de la limite. Donc, voilà, je pense que, enfin, dans ce que je dis, en tout cas, bien entendu, je me suis plusieurs fois excusé d'être un peu sommaire, mais... Voilà, j'aurais pu vous faire une conférence de 6 heures, et de toute façon, ce serait toujours insuffisant, mais je crois qu'on est d'accord.
Je crois qu'on va devoir effectivement arrêter là la discussion avec Bernard, qui, effectivement, comme je disais, question que j'aime bien inviter à une parole aussi d'invité. Je trouve que c'est intéressant la façon dont il a remonté ce travail, mais malheureusement, Bernard a
merci à vous.
On n'a pas de pause, donc on a un peu d'avance, c'est bien, ça permet de